Vers les Common Gallows.
Les corbeaux de la tour vivent très vieux, plus de 100 ans, dit-on. Le même énorme corbeau, attentif et sournois, qui 7 ans plus tôt cherchait à piquer les yeux du prisonnier à travers les barreaux du soupirail, était revenu se poster devant la cellule. Était-ce par dérision qu'on avait assigné à Mortimer son cachot d'autrefois? Là où le père l'avait gardé 17 mois enfermé, le fils à son tour le tenait captif. Mortimer se disait qu'il devait y avoir dans sa nature, dans sa personne, quelque chose qui le rendait intolérable à l'autorité royale, ou qui lui rendait insupportable cette autorité. De toute manière, un roi et lui ne pouvaient cohabiter dans la même nation, et il fallait bien que l'un des deux disparût. Il avait supprimé un roi, un autre allait le supprimer. C'est un grand malheur que d'être né avec une âme de monarque, quand on n'est pas destiné à régner. Mortimer, cette fois, n'avait plus l'espérance ni même le désir de s'évader. Il lui semblait être déjà mort depuis Nottingham. Pour les êtres tels que lui, dominés par l'orgueil et dont les plus hautes ambitions ont été un moment satisfaites, la chute équivaut au trépas. Le vrai Mortimer était à présent, et pour l'éternité humaine, inscrit dans les chroniques d'Angleterre. Le cachot de la tour ne contenait que sa charnelle, mais indifférente enveloppe. Chose singulière, cette enveloppe avait retrouvé des habitudes. De la même manière que lorsqu'on revient après 20 ans d'absence dans la demeure où l'on a vécu enfant, on pèse du genou machinalement et par une sorte de mémoire musculaire sur le battant de la porte qui autrefois forçait, ou bien l'on pose le pied au plus large de l'escalier pour éviter le bord d'une marche usée. De la même manière, Mortimer avait repris les gestes de sa précédente détention. Il pouvait, la nuit, franchir les quelques pas du soupirail au mur sans jamais se cogner. Il avait, dès son entrée, repoussé l'escabelle à sa place ancienne. Il reconnaissait les bruits familiers, la relève de la garde, la sonnerie des offices à la chapelle Saint-Pierre, et cela sans le moindre effort d'attention. Il savait l'heure où on lui apportait son repas. La nourriture était à peine moins mauvaise que du temps de l'ignoble constable Seagrave. Parce que le barbier Hoggle avait servi d'émissaire à Mortimer la première fois pour organiser sa fuite, on refusait de lui envoyer quelqu'un pour le raser. Une barbe d'un mois lui poussait aux joues, mais à ce détail près, tout était semblable jusqu'à ce corbeau que Mortimer avait naguère surnommé Édouard et qui feignait de dormir, ouvrant de temps en temps son œil rond avant de lancer son gros bec à travers les barreaux. Ah si, quelque chose manquait. Les monologues tristes du vieux Lord Mortimer de Shirk, gisant sur la planche qui servait de couche. À présent, Roger Mortimer comprenait pourquoi son oncle avait refusé autrefois de le suivre dans son évasion. Ce n'était ni par peur du risque, ni même par faiblesse de corps. On a toujours assez de force pour entreprendre un chemin, même si l'on doit y tomber. C'était le sentiment que sa vie était terminée, qui avait retenu le Lord de Shirk, et lui avait fait préférer attendre sa fin sur ce bas flanc. Pour Roger Mortimer, qui ne comptait que 45 ans, la mort ne viendrait pas d'elle-même. Il éprouvait une vague angoisse lorsqu'il regardait vers le centre du green, la place où l'on dressait habituellement le billot. Mais on s'habitue à la proximité de la mort par toute une suite de pensées très simples qui s'organisent pour constituer une mélancolique acceptation. Mortimer se disait que le corbeau sournois vivrait après lui et narguerait d'autres prisonniers. Les rats aussi vivraient, les gros rats mouillés qui montaient la nuit des berges vaseuses de la Tamise et couraient sur les pierres de la forteresse. Même la puce qui le taquinait sous sa chemise sauterait sur le bourreau le jour de l'exécution et continuerait de vivre. Toute vie qui s'efface du monde laisse les autres vies intactes. Rien n'est plus banal que de mourir. Quelquefois, il songeait à sa femme, Lady Jeanne, sans nostalgie ni remords. Il l'avait assez tenue à l'écart de sa puissance pour que l'on eût quelque raison de s'en prendre à elle. On lui laisserait sans doute la disposition de ses biens personnels. Ses fils, certes, ses fils auraient à subir la séquelle des haines dont il était l'objet, mais comme il y avait peu de chances qu'il devinsse jamais homme d'aussi vaste valeur et d'aussi haute ambition que lui, qu'importait qu'il fût ou ne fût pas comte dans les marches. Le grand Mortimer, c'était lui, ou plutôt ce qu'il avait été. Ni pour sa femme, ni pour ses fils, il n'éprouvait de regret. La reine. La reine Isabelle mourrait un jour. Et de cet instant-là, il n'existerait plus personne sur terre à l'avoir connue dans sa vérité. C'était seulement lorsqu'il pensait à Isabelle qu'il se sentait encore quelque peu rattaché à l'existence. Il était mort à Nottingham, certes, mais le souvenir de son amour continuait de vivre, un peu comme les cheveux s'obstinent à croître quand le cœur a cessé de battre. Voilà tout ce qui restait au bourreau à trancher. Quand on séparerait la tête du corps, on anéantirait le souvenir des mains royales qui s'étaient nouées à ce coup.